Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet, cinéma d'art et d'essai de Fort-Calquier. Comme souvent en cette semaine du 24 au 30 janvier, 6 films sont à l'affiche, de cinéastes reconnus, confirmés pour certains, mais aussi une véritable découverte et on s'en réjouit, on vous en parlera en fin d'émission. Ces films donc, à commencer par Moi Capitaine, Io Capitano de Matteo Garrone. Matteo Garrone, cinéaste italien, vous le connaissez plus particulièrement depuis 2008 et son film Gomorra, qui lui a valu un grand prix à Cannes. Film remarquable, adapté de l'œuvre de Roberto Saviano. En 2012, il réalisera Reality, qui lui vaudra un deuxième grand prix à Cannes. Et puis, depuis lors, notamment Dogman en 2018, Pinocchio aussi, en 2019, et il revient donc avec Moi Capitaine, où on retrouve à la fois son style, mais un style beaucoup peut-être plus ancré encore dans une certaine réalité qui est celle-là des migrations, en l'occurrence depuis le Sénégal vers l'Italie, et donc à travers le désert africain, les geôles libyennes et la traversée de la Méditerranée ô combien tragique. Alors pour ce nouveau film qui était présenté au Festival de Venise en septembre et qui a obtenu le Lion d'argent du meilleur réalisateur, mais aussi qui a valu un prix d'interprétation, en tout cas de la révélation pour Seydou Sarr, qui est son jeune interprète, absolument remarquable, pour tous ces interprètes sénégalais. Apparemment, Matteo Garrone est allé fouiller, rencontrer des jeunes gens dans les écoles de théâtre du Sénégal, et bien lui en a pris, car tous, à commencer par Seydou Sarr, donc, sont absolument remarquables, de jeunes gens à peine sortis de l'adolescence, qui incarnent ô combien cette tragédie, ce drame qui se déroule là sous nos yeux, et qui parfois aussi de laquelle on s'échappe, parce que Matteo Garrone n'a pas renoncé à faire de ce film et de cette réalité-là une forme de conte avec une dimension parfois plus onirique et fantasmagorique. Je n'ai pas dit que ce film est inspiré de l'histoire de Fofana Amara, un Guinéen de 15 ans qui est emprisonné en Sicile après avoir été forcé, qui s'est retrouvé comme le personnage ici à conduire un bateau par la force des choses en Méditerranée pour sauver des centaines de migrants depuis la Libye. C'est de cette histoire-là que Matteo Garrone est parti pour raconter celle donc de Seydou dans ce film Moi Capitaine, qui est programmé pour 5 séances cette semaine. Un autre film qui était à Venise en septembre et qui figure lui aussi au palmarès, c'est Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola, qui a valu donc à son interprète Kylie Spani la coupe Volpi, c'est-à-dire le prix d'interprétation féminine, et c'est justice. Et c'est l'un des plaisirs qu'on a aussi d'une certaine façon avec Moi Capitaine, mais ô combien pour Priscilla, à découvrir des acteurs, des actrices. Vous savez peut-être combien je suis parfois saoulé, comme moi peut-être, vous en avez parfois peut-être assez de voir les mêmes visages, des mêmes acteurs et actrices dans les films, français notamment, américains. Et c'est le plaisir aussi qu'on a parfois à voir des films de cinématographie plus rares, ou du moins de pays dont les acteurs n'ont pas le même narcissisme, disons, le même ego surdimensionné. Et donc un plaisir d'autant plus grand lorsqu'on découvre des nouveaux visages, comme c'est le cas ici pour Priscilla de Sofia Coppola. avec dans le rôle titre donc Alice Pani, mais aussi Jacob Elordi, qui incarne Elvis Presley, qui est un jeune acteur australien, et beaucoup d'autres, que des visages inconnus, et c'est une bonne chose. Alors Sofia Coppola, c'est son 8e long-métrage. On l'a découverte en 99, en tout cas comme réalisatrice, on l'avait vue dans les films de son père comme jeune interprète, mais en 99 avec Virgin Suicides, évidemment en 2003 avec Bill Murray et Scarlett Johansson, Lost in Translation, vous vous souvenez sans doute de Marie-Antoinette en 2006, peut-être déjà un petit peu moins de Somewhere en 2010, et puis les années 2010, eh bien, en France en tout cas, ces films sont passés un peu plus inaperçu, c'était The Bling Ring en 2013, Les Proies qu'on avait programmé, il me semble, en 2017, et un film qui, lui, a fini sur les plateformes, On the Rocks, en 2020. Je précise que pour ces deux derniers, donc Les Proies et On the Rocks, on retrouvait le même, et c'est important de le souligner car ce travail est remarquable, le même chef opérateur, le même directeur de la photographie, et c'est un Français, il s'appelle Philippe Lesourd. Il a travaillé avec Darius Conji, avec Bernardo Bertolucci, avec Caro et Jeunet notamment, Cédric Lapiche aussi à ses tout débuts, et Wong Kar-wai pour The Grandmaster. Et ces trois derniers films, en l'occurrence, sont les trois films, les trois derniers en date de Sofia Coppola. Donc il y a une collaboration très très forte et fidèle qui existe depuis 7 ans maintenant entre Sofia Coppola et Patrick Lesourd, et ça donne un très très beau résultat dans le cadre de ce film, dans le cas de Priscilla donc, qui est adapté des mémoires de Priscilla Presley, donc l'épouse d'Elvis Presley, la seule épouse d'Elvis Presley. Entre 1963 et 1972, ils se sont rencontrés en 1959, elle avait 14 ans et lui 24, mais ils vivront ensemble et elle sera conviée assez tôt à Graceland, qui est donc la résidence de Presley à Memphis, et se marieront en 1963, auront une fille en 68, je crois, et se sépareront en 72, divorceront en 73. Donc vous voyez, il y a toute une traversée des années 60, plus particulièrement, qui est perceptible dans ce film, qui est d'abord une sorte de roman d'apprentissage, de récit d'émancipation d'une jeune femme prise sous l'emprise comme ça d'un homme qui en plus est une célébrité absolue, qui se retrouve donc à subir et à être extrêmement contrainte dans son quotidien, et qui peu à peu va affirmer un désir, une puissance d'affirmation aussi, et c'est ce qui est beau, parce que Sofia Coppola filme ça avec beaucoup de justesse, de sensibilité bien sûr, de douceur également, mais ce qui est beau et aussi, c'est que ce film, qui est donc une sorte de variation sur l'adolescence et donc de l'émancipation que j'évoquais, ce film traite aussi de la société de consommation qui éclate dans ces années 60, des femmes au foyer, du rock'n'roll évidemment, de la drogue, et de tant d'autres problématiques qui ont traversé, parsemé et fait ces années 60. Priscilla, donc, c'est le nouveau film de Sofia Coppola qui est programmé cette semaine pour 5 séances.
Hi, what's your name?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
What are the kids listening to these days?
Bobby Darin, Fabian, and you.
Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter?
Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age.
21!
Yeah. 22. What? That's 22. 22. You don't have to worry about it. Black hair and more eye makeup.
I don't know if I like it.
What do you mean you don't know if you like it?
He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you.
Was there something you're hiding?
I don't have a goddamn thing to hide. I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be her or not?
Making of, c'est le nouveau film déjà, me direz-vous, et c'est vrai, de Cédric Kahn. Cédric Kahn, c'est un cinéaste qu'on apprécie, que pour ma part je suis depuis ses tout débuts, en 1991 avec Barre des rails, c'est un film qui mériterait d'être découvert. Et ensuite, l'un de ses grands films, le deuxième, s'appelle Trop de bonheur. C'est un film aujourd'hui, hélas, invisible. C'était en 94. Suivront L'ennui, Roberto Succo, Les regrets, Une vie meilleure, Vie sauvage, La prière qu'on avait programmée à Fort-Calquier, qui est remarquable et qui a révélé ce formidable jeune acteur qui est Anthony Bajon. Fête de famille en 2019, et comme d'autres cinéastes, il y a eu ce temps de l'épidémie de Covid, durant laquelle Cédric Kahn a écrit deux scénarios qu'il a réalisés dans la foulée après l'épidémie, d'où la proximité dans les sorties du procès Goldman présenté à Cannes en mai 2023, qui est sorti en septembre et qui est l'un des grands films de l'année 2023. Et ce film très différent, première comédie pour Cédric Kahn, Making of, qui est un peu la nuit américaine de Cédric Kahn. La nuit américaine, vous savez que c'est ce film de François Truffaut, de 72 peut-être, qui montre les coulisses d'un tournage et les péripéties auxquelles le réalisateur notamment doit faire face. C'est un peu le cas ici, mais sur un ton burlesque, comique, presque de la farce par moment. Et dans le rôle du réalisateur, on retrouve Denis Podalydès. Dans le rôle de l'acteur principal, et c'est l'un des plaisirs du film, Jonathan Cohen, qui est égal à lui-même et qui le fait bien. Mais aussi des jeunes interprètes, Stéphane Crépon, qui est remarquable, dans le rôle de Joseph, qui va se retrouver, alors qu'il est né qu'un apprenti cinéaste qui confie au réalisateur son scénario qu'il vient d'écrire, va se retrouver attitré, comment dire, assigné à réaliser le making-of et à filmer ce que d'autres making-of ne montrent pas. Et Soheila Yacoub, qui est cette jeune actrice suisse, je crois pensionnaire de la Comédie française, qu'on retrouve toujours avec plaisir, et qui on retrouvera notamment dans le prochain Dune de Denis Villeneuve cette année, mais qu'on avait vu chez Garel, qu'on a vu aussi dans Encore de Cédric Clapiche, elle est remarquable. Emmanuel Berco joue, je crois, la directrice de production, et surtout Xavier Beauvois joue le producteur un peu véreux qui s'échappe quand la situation ne s'arrange pas, disons. Alors c'est assez beau de voir Xavier Beauvois, car Beauvois et Cédric Kahn ont commencé vraiment exactement en même temps, entre 91 et 92, Barre des rails pour l'un, Nord pour l'autre. Cédric Kahn jouait dans N'oublie pas que tu vas mourir, c'était son premier rôle en tant qu'acteur, c'était vraiment un tout petit rôle. Mais il y a quelque chose d'assez touchant, 30 ans après, de les retrouver tous les deux là au sein d'un même film. Même si Cédric Kahn, pour le coup, ne joue pas dans son propre film, alors qu'il s'est révélé au cours des années passées un formidable acteur aussi, que vous avez vu notamment dans Novembre de Cédric Jiménez, dans Fête de famille de Cédric Kahn lui-même, mais aussi dans Les Anarchistes, L'économie du couple de Joachim Lafosse, où il était formidable. Et alors, ce qui est beau, c'est que ce film, je vous le disais, est une comédie, et ce film est une vraie mise en abîme, c'est-à-dire que le réalisateur filme là un conflit social qui dégénère un peu et il va se retrouver à devoir faire face à un conflit social parmi les techniciens, les interprètes de son propre film. Et donc la situation qu'il filme, elle va se retrouver finalement dans le making-of, puisque les machinistes notamment, il y a une séquence très forte où un machiniste demande simplement à être payé correctement. Sinon, il s'en va et le film s'arrête avec lui et avec toutes celles et tous ceux qui le suivent. Making of, donc, c'est l'un des intérêts, l'un des plaisirs que l'on a au nouveau film de Cédric Kahn qui est programmé pour 5 séances cette semaine à Fort-Calquier.
Et toi, tu m'annonces ça comme ça, tu veux me quitter?
Mais quoi, ça ne se plus quand il n'y a que l'usine.
Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre.
Mais quoi?
Oh putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Fais-moi bosser mon sexe en supplie.
Moteur! Attendez,
moteur, moteur!
Pardon! Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je change pas une ligne du scénario.
Ça représente combien votre apport?
1 million d'euros.
Tu dois rejoindre les producteurs au resto.
Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gaspillage avec deux têtes de cul.
Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier?
Bah carrément, à fond.
Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule.
T'es obligé de crier tout le temps?
Alors c'est un cinéaste, un des grands cinéastes vivants. Il a 93 ans. Il est plus actif que jamais, mais il l'a toujours été. Hein. Il s'agit de Frederick Wiseman, cinéaste américain qui vit en France. 93 ans, je vous le disais, même 94, pardon, puisqu'il est né le 1er janvier 1930 à Boston. Il a filmé sa ville, notamment dans City Hall. Il filmait l'hôtel de ville. Et c'est un documentariste pur jus. qui a réalisé depuis 1967 Titicat Follies, une quarantaine de films, je crois, quasiment presque un film par an. Bon, il doit pas loin être loin des 50, et pour ce qui est des derniers, qui sont eux sortis en salle, parce que pendant des décennies, les films de Frederick Wiseman ne sortaient quasiment pas en salle en France. La faute sans doute à des distributeurs ou à des exploitants frileux, mais frileux parce que la durée des films peut être assez dissuasive pour des exploitants et des distributeurs. Souvent les films de Wiseman font 3 heures, font 4 heures, parfois 5 même. Mais chacun est une immersion, notamment dans les institutions américaines, qui s'avère absolument passionnante. On a passé en octobre dernier ou même en septembre Welfare, qui est l'un des premiers très grands films de Frederick Wiseman. Mais il y a eu depuis High School, évidemment, Public Housing, Hospital, Law and Order, Juvenile Court, Primate, voilà, Meet, beaucoup, beaucoup d'institutions diverses, administratives notamment, un abattoir, une université, voilà, beaucoup. Et comme il vit en France et qu'il est très francophile, depuis les années 90, mais particulièrement depuis les années 2000, il a filmé les institutions françaises aussi, alors en tout genre, hein, puisqu'il a filmé aussi bien le ballet de l'Opéra de Paris dans La Danse en 2009 que le Crazy Horse en 2011. Et de retour, il fait la navette entre la France et les États-Unis. Et pour ce qui est des derniers, il a filmé l'Université de Berkeley en Californie dans At Berkeley en 2013, la National Gallery de Londres en 2014, un quartier populaire de New York in Jackson Heights. Il avait filmé aussi le réseau des bibliothèques publiques de New York dans Ex Libris en 2017. Ça avait fait la couverture du programme du Bourget. Et il nous revient donc en France avec ce film Menu Plaisir, Les Trois Gros, où il filme cette institution familiale qui est les trois restaurants dirigés par la famille Trois Gros. Le principal, évidemment, c'est le Bois sans feuilles, qui est situé près à Ouche, près de Roanne, et qui est depuis 1968 l'un des trois étoiles du guide Michelin. Donc un enjeu et une transmission, une tradition très très forte dans un milieu, la gastronomie, qui est extrêmement codifié et très très rigoureux, évidemment. Mais le film nous montre certes cela, il nous montre aussi surtout le travail, la capacité de travail dont sont qui est le quotidien de Michel Trois Gros, le père, mais aussi de ses deux fils. Ils prennent la suite, hein, Léo et César, chacun dirigeant un restaurant. César, le Bois sans feuilles, et Léo, l'autre, la colline du Colombier. On les suit donc au quotidien avec les problématiques qui sont les leurs vraiment d'un jour à l'autre, c'est-à-dire concevoir les menus, aller chercher les produits. Et l'un des grands plaisirs qu'on a du film, notamment, c'est de les voir en visite chez tous leurs fournisseurs, qui sont évidemment des producteurs soucieux de la qualité, soucieux de préserver la biodiversité, de faire évidemment avec les produits locaux, et qui savent en parler. Ce sont pour chacun d'entre eux des métiers passion, comme on dit. Et quel bonheur d'entendre les éleveurs, les vignerons, les affineurs locaux. On pourrait passer des heures à écouter parler l'affineur, parler des bactéries, du lavage, des arômes, de la levure et de toute l'histoire de ces fromages. On est vraiment, je vous le disais, en immersion pendant 4 heures, car le film dure 4 heures, avec les Trois Gros, avec le père et ses deux fils. On assiste à la préparation d'un potager familial, à la cueillette, voilà, et à tout l'approvisionnement qui fait dès l'aube, des potrons minés, le quotidien de ces trois chefs cuisiniers absolument remarquables. À défaut de pouvoir se payer un repas chez eux, on entre ici pendant 4 heures dans les coulisses d'un des grands restaurants du monde. Et c'est un bonheur qu'on vous invite à partager pour 2 séances à Fort-Calquier. Le film durant 4 heures, 2 séances seulement sont prévues. Mais une séance décisive le dimanche 28 janvier à 16h, donc Menu Plaisir, Les Trois Gros de Frederick Wiseman, qui sera rediffusé le mardi 30 janvier à 14h.
Trois enfants, hein? César, Léo, Marion. César qui est chef de cuisine dans cette maison, Léo qui est chef de cuisine à la colline du Colombier, notre fille qui est avec nous, et puis Marie-Pierre, bien entendu mon épouse, qui chapeaute tout ça, voilà.
L'apéritif pour 4 et pour 6.
On en vient à l'événement de la semaine. Un événement auquel on travaille depuis quelques semaines, sinon quelques mois. Avec Pascal Privé, vous connaissez Pascal Privé, qui a créé en 1988 les Rencontres Cinéma de Manos, que je pense que certains, certaines, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, êtes allés au moins une fois, sinon chaque année pendant 30 ans, aux Rencontres Cinéma de Manos, que j'en ai eu moi-même le plaisir sur les dernières années. Le festival a pris fin en 2017. Depuis lors, on avait invité Pascal à présenter quelques soirées avec nous, notamment autour de Jean Rouch, qui était le parrain des Rencontres Cinéma de Manos, et que Pascal a bien connu. Et parmi les cinéastes que Pascal Privé a accueillis dans les, disons, la dernière décennie des Rencontres Cinéma de Manos, qu'il y a Anastasia Lapsui et Markku Lemuskallio, cinéaste de Finlande, du Grand Nord donc, qui documente depuis près de 40 ans, notamment la vie du peuple nénette auquel appartient Anastasia Lapsui. Et si Markku Lemuskallio a commencé il y a 50 ans à faire des films, dans un premier temps, Anastasia Lapsui était journaliste dans le nord de la Sibérie, pratiquant beaucoup la radio. Elle a réalisé beaucoup d'émissions de radio. Elle a été la première journaliste radio à pratiquer dans sa langue, celle de son peuple nénette. Et puis, depuis 1993, tous deux, Markku, Anastasia, font du cinéma ensemble. Ça a donné lieu à un premier film ensemble, puisque Markku en avait réalisé par le passé. En 1997, le film s'appelle Anna. Suivront et s'enchaîneront rapidement d'autres films, et notamment celui qui en France les a fait connaître, à savoir Sept chants de la toundra. C'était en 2000, et le film s'était sorti en France. C'était le premier d'Anastasia et de Markku à sortir en France. Depuis, d'autres, beaucoup. Je vous les donne en vrac, ces titres. Neko, Dernière de la lignée, Le Voyage perpétuel, Fata Morgana, Tsamo. Et ces films que Pascal connaît bien, que moi-même j'en ai quand même vu un certain nombre, on a imaginé vous les montrer, en tout cas vous en montrer certains au cœur de cet hiver, à l'occasion de la sortie, disons, du nouveau film de Pascal Privé. Pascal est lui-même réalisateur. Il a tourné notamment dans différents pays. Pascal est un grand voyageur. Et comme il connaît depuis une quinzaine d'années maintenant Anastasia et Markku, il est allé leur rendre visite plusieurs fois en Finlande, chez eux, à la fois dans leur appartement en ville, comme dans une cabane qu'ils habitent occasionnellement dans la campagne du Grand Nord. Et il est allé les filmer, il en a fait un portrait qui dure 1h15 et qui s'appelle En compagnie d'Anastasia et Markku, cinéaste du Grand Nord. Ce film a très peu circulé, il a été achevé il y a quelques mois. Et ce qu'on se propose au cours de cette première soirée consacrée à Anastasia et Markku, c'est de vous montrer ce film le jeudi 25 janvier à 18h, évidemment en présence de Pascal Privé. Il y aura un échange, on discutera du film, de Markku et d'Anastasia, puis à 20h30, on vous proposera de voir ou de revoir le film qui les a fait connaître, qui est un film absolument magnifique, qui n'est pas exactement un documentaire, qui oscille entre documentaire et fiction, et c'est ce qui en fait toute la richesse, et qui nous montre la vie du peuple nénette, que les donc Anastasia et Markku documentent depuis fort longtemps, y compris à travers des récits de fiction inspirés de contes et de récits du peuple nénette. Et voir notamment comment, au fil des décennies, ce peuple nénette s'est retrouvé intégré au grand empire russe et à l'URSS ensuite, à travers le XXe siècle, comment les enfants vont se retrouver contraints et forcés d'aller à l'école, extirpés de leur famille pour se retrouver en internat. Voilà, c'est des séquences qu'on retrouve et qui parsèment dans tous les films d'Anastasia et Markku. Ce sont des films faits dans une indépendance, une liberté d'esprit et de pratique absolument remarquable, extrêmement sensible, vous le verrez. Je pense que vous serez très touché par ces films, en apparence très simples et qui est d'une sensibilité assez extraordinaire. Thank you. Donc on vous montre le portrait de Pascal le 25 janvier à 18h, ensuite cette chanson de la toundra, et puis le 29 février, prenez date d'ores et déjà, le 29 février, deuxième soirée consacrée au cinéma d'Anastasia Enmarcou. On a bon espoir de pouvoir les faire venir de Finlande, ça sera évidemment un événement considérable. On en profitera pour les faire tourner dans quelques autres cinémas de la région, mais on espère qu'ils seront là, en tout cas deux autres films seront montrés le 29 février. Et quoi qu'encore incertain, j'espère qu'on trouvera la possibilité de montrer encore deux autres films au cours d'une troisième soirée, peut-être fin mars, on y reviendra. Voilà, en tout cas, notez bien cette première soirée en compagnie de Pascal Privé et de ces deux cinéastes du Grand Nord, Anastasia et Marcou. C'est le jeudi 25 janvier à 18h, j'espère que vous serez avec nous. A priori, la carte d'abonnement ne marchera pas ce soir-là, donc prévoyez d'apporter quelques sous. Et prévoyez aussi, ayez à l'esprit, que en cette semaine du 24 janvier dont je vous parle, c'est important, les tarifs du cinéma sont revus à la hausse. Ça fait 10 ans qu'on tient bon, qu'on avait, en dépit de toutes les augmentations que vous connaissez, liées à l'énergie, à l'augmentation du coût du papier notamment, voilà, qu'il s'agisse d'imprimerie, d'électricité, tout. De ménage, tous les prix augmentés. Jusqu'à présent, on avait tenu bon, je ne voulais pas augmenter les prix, qui restaient très bas. Mais ça n'est plus possible, simplement, pour vous le dire franchement. Et je pense qu'on a été extrêmement raisonnable en la matière, donc on se permet aujourd'hui, en cette semaine du 24 janvier, dès ce mercredi, les tarifs augmentent. C'est assez cohérent, chaque prix, en fait, augmente de 1 euro. Donc la place abonnée, qui était jusqu'à présent à 5,50, passe à 6,50. C'est-à-dire que la carte, toute nouvelle carte, coûtera 66 euros. Les recharges ensuite de 10 places seront à 65 euros. Le plein tarif passe de 7 euros à 8 euros, etc., etc. Voilà, on vous en redira plus et vous pourrez en prendre connaissance à la caisse du cinéma. Mais les nouveaux tarifs, en tout cas les principaux, figurent sur le programme papier que vous avez peut-être collé avec un aimant sur votre réfrigérateur. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très vite.